Bien, nous allons reprendre, sachant que notre programme est assez chargé, qu'à 18h30, nous sommes attendus à l'église Saint-François de Sales, dite des Italiens, à 18h30 pour l'Eucharistie, et comme vous êtes de bons paroissiens, vous n'arrivez jamais en retard à la messe. Donc d'ici là, il faut qu'on arrive à échanger sur nos différentes thématiques. Quatre ateliers dont les thèmes sont rappelés juste sur le mur. Je demande un exercice difficile, périlleux et pourtant bénéfique aux quatre rapporteurs et animateurs des différents ateliers, sachant que Capucine ne va pas tarder à nous rejoindre. Une église, des chapelles, parler de ce qui divise les catholiques. C'était un atelier dont le témoin était Linda Kay, journaliste, essayiste. Un atelier animé par Marc Leboucher qui nous fait un petit retour.
Alors, revenons donc à cette question des chapelles à partir du travail de Linda Kay qui sort dans quelques jours un livre chez Taillandier sur les cathos, qui est une enquête sur la première religion de France. Alors, on a essayé de revenir un petit peu à partir de ça. Et notre ami journaliste nous faisait remarquer que ce n'était pas si facile, forcément, d'enquêter sur le catholicisme, parce qu'il se présentait un petit peu comme difficile à pénétrer d'emblée, même si il semblait très visible dans la société. Alors, typologie, chapelle, catégorie, nous sommes revenus peut-être dans un premier temps sur... la suite aussi de l'enquête proposée par Yann Raison du Closiou ces derniers temps. Interrogation dans un premier temps sur ces typologies. Est-ce que ces typologies sont nécessaires? Est-ce que les catholiques qui ont eu le sentiment d'être un peu maltraités par les médias, par exemple durant la manif pour tous, ne se sentent pas un peu épinglés et victimes de certaines réductions ou d'analyses trop rapides? Autre question aussi, est-ce que ces enquêtes, finalement, ces conflits de chapelle sur la liturgie ou sur la spiritualité ou les pratiques de vie, est-ce que ce n'est pas des divisions finalement très internes au monde catho qui se regardent un peu le nombril? Et puis aussi, est-ce que ces divisions ne renvoient pas aussi à des modes de vie ou à des portraits un peu figés? Finalement, est-ce qu'on n'oublie pas que la foi, c'est aussi une histoire singulière avec une évolution au cours de l'histoire personnelle et que la foi, c'est quelque chose qui fait grandir et qui aide à avancer. Donc, aussi, voilà, une mise un petit peu en question de toutes ces catégories et chapelles. Un deuxième, peut-être, ordre de réflexion un peu plus, peut-être, positif par rapport à ça, un mot qui est revenu d'emblée, c'est notamment au cours de l'enquête, c'est finalement, il y a une circulation entre les chapelles. Les personnes ne sont pas forcément enfermées dans une image. On discute beaucoup et de donner l'exemple, par exemple, de chrétiens qui vont aussi bien être dans un mouvement charismatique, aller à Thésée ou s'engager en politique ou dans le monde associatif. Donc, il y a quand même des passages entre toutes ces sensibilités. Notez aussi beaucoup que pour un certain nombre de catholiques, notamment aussi dans les jeunes générations, la foi est un moyen de se ressourcer devant des conditions de vie difficiles, exemple du burn-out, situation de deuil, situation complexe dans le monde du travail. Voilà, pour un certain nombre de jeunes, voilà, on dépasse un peu ce cadre de clivage pour se ressourcer également.
Il y a encore des places sur le côté, là vous pouvez avancer, n'hésitez pas, autant que vous preniez place tout de suite.
donc un aspect assez positif d'une certaine manière de la foi comme aide. Alors après, on en est arrivé petit à petit, je dirais, c'était intéressant de voir comment en Carrefour et avec notre intervenante et avec nos participants, on a essayé de creuser cette question de la division. Hein, où est-ce que ça clive? Qu'est-ce qui fait qu'on se divise? Alors certains disent, ben oui, il y a des manifestations d'unité dans l'Église, hein, par exemple les JMJ, bon voilà, avec des repères clairs, le pape, la question de l'évangélisation, mais aussi division autour de la personne du Christ, comme si c'était, et ça ressortait également des enquêtes, la personne du Christ clivait selon qu'on allait percevoir qu'il était plus fils de l'homme, fils de charpentier, leader syndical, ou type chouette, enfin voilà, un certain nombre de façons. Alors c'est vrai que c'est un débat qui ne date pas forcément tout à fait d'hier, hein. Et Augustin, Bossuet ou d'autres ont beaucoup discuté là-dessus, mais on voit bien comment c'est aussi une mode de définition de sa propre identité de chrétien ou de catholique. Alors, il y a aussi peut-être un autre type de fracture, c'est la façon dont la foi va irriguer les mœurs, irriguer les modes de vie. Hein, et on voit bien comment aujourd'hui des convergences peuvent naître. Certains catholiques qui peuvent être plus proches de milieux écologistes, même s'ils sont un peu classiques par ailleurs, ou des anciens, des gens qui sont émergissés, revenir à des thématiques de ce type, c'est assez étonnant. Voilà, on voit bien au fond des choses qui se traversent en dépit de modes de vie différents. Alors, finalement, si on veut continuer l'interrogation, moi, j'avais noté un peu un quatrième ordre de réflexion. On s'aperçoit que finalement aussi, ces divisions sont renvoyées un peu de l'extérieur. Hein. Ce n'est pas forcément juste quant à cette identité. Je reprendrai volontiers en dernier point une question qui nous est renvoyée. Finalement, est-ce que le principal challenge du catholicisme dans cette première partie du XXIe siècle, c'est pas de se dire à nouveau comment est-ce qu'on peut être en prise avec la société, la vie sociale? On s'aperçoit qu'au fil des générations, des années, l'action catholique, le renouveau, d'autres types de sensibilités ont répondu de façon différente à ce type d'interrogation, et que là, à nouveau, eh bien, les générations nouvelles essaient de donner d'autres réponses. Alors, également, une personne dans l'assistante qui est protestante, en écoutant aussi l'Assemblée parler et montrer comment il y avait émergence aussi de toutes ces différences dans le catholicisme, disait peut-être que les catholiques sont en train de devenir protestants. Bon, c'est vrai que nos amis de la Réforme ont peut-être une plus longue expérience de l'individualisme ou du débat. En même temps, on sent bien qu'il y a ce travail d'unité toujours à l'œuvre, hein, et que voilà, c'est passionnant, intéressant. Alors, je cite aussi cette phrase intéressante là. Chaque catholique est une île avec son écosystème, ses saisons et son oxygène. Bon, c'est pas inintéressant. Ça a provoqué des réactions, mais moi j'aime bien parce que ça donne quelque part à penser effectivement les saisons de la vie. C'est aussi une façon de vivre cette propre identité. Voilà. Merci pour les chapelles.
Merci Marc. Alors l'atelier travaillait autour des sites et réseaux sociaux et travaillait un petit peu comment coordonner ces différents médias. Atelier avec le témoignage de Sandrine Verdelan pour le Secours catholique et animé par Jean-Baptiste de Fombelle.
Oui, donc... Alors nous, on était parti d'un thème qui est sur vos fiches, qui était le risque de l'immédiateté, les réseaux sociaux, le risque de l'immédiateté. On a fait un peu déplacer le curseur et le sujet, et on est allé des risques de l'immédiateté pour aller très vite vers la solution du maillage des réseaux. Et donc, comment faire en sorte qu'en maillant nos réseaux, en les croisant, en les utilisant à bon escient, on puisse dynamiser sa communication et la rendre surtout pertinente et ne pas frayer avec le faux, en restant dans le vrai. Donc c'est surtout l'expérience donc du Secours catholique de Sandrine, qui est donc depuis 3 ans donc, à la tête du service des relations publiques avec un S public, enfin c'est les publics, j'ai appris ça. qui était intéressante. Donc, elle nous a décrit un peu ce fameux maillage, un site internet, voilà, qui est bien là, qui est extrêmement fourni, qui fournit d'ailleurs énormément de contenu. On verra plus tard que ça a un sens et que c'est un carburant excellent pour ensuite animer la stratégie des réseaux sociaux. Une revue, Message, avec également donc des journalistes qui y contribuent. Et puis donc les éternels Twitter et Facebook, avec Facebook une identité plus, un fond plus ludique, un ton plus ludique, plus léger, plus personnel. On sait tous que c'est pas par là que passera la véritable information, ou alors en tout cas elle va être extrêmement retravaillée. Sandrine a insisté aussi sur la façon dont il, même pour Facebook, il réécrivait en quelque sorte et il redessinait toute information qu'ils allaient diffuser pour profiter donc voilà de l'effet boule de neige de Facebook et de ses algorithmes qui sont parfois un peu piégeux puisque ils peuvent aller ensuite de façon un peu boule de neige très loin sans forcément qu'on les maîtrise. Twitter qui en revanche donc est considéré au Secours catholique, mais je crois que c'est valable pour tout le monde. On était là, on l'a dit en introduction aussi de notre atelier, sur un exemple donc institutionnel, le Secours catholique. Ça pourrait s'appliquer aussi aux médias, je pense, et à nos titres, nos journaux, nos médias. Donc Twitter pour une utilisation beaucoup plus pour un plaidoyer, pour une interpellation, et il y a eu des exemples qui sont assez parlants, je trouve. Twitter qui remplace, j'ai bien aimé le parallèle, en fait, qui remplacerait un peu l'ancienne tribune dans le monde qu'on publiait pour taper du poing sur la table et attirer l'attention d'un ou deux interlocuteurs, voire d'une population. Donc là, l'exemple, enfin, il y en avait deux d'ailleurs, c'était l'exemple de l'évacuation de façon un peu musclée, voire, je crois, assez, si j'ai bien compris, scandaleuse par les CRS à Calais de migrants, où ils se sont posé la question donc pour les rapatrier à la jungle. Donc en gros, le circuit était un peu bizarre. On allait les déloger d'un endroit où ils étaient installés pour les ramener dans la jungle. Le procédé, la façon était vraiment, ont visiblement été mal accompagnés par les médias, et le Secours catholique s'est posé la question: comment on fait pour réagir, comment on fait pour se faire entendre, et notamment comment on fait pour se faire entendre du ministre lui-même, de la population, mais du ministre. Et donc, en fait, la solution qui a été trouvée, c'est une petite vidéo d'une minute trente de la présidente du Secours catholique balancée sur Twitter, interpellant, si j'ai bien compris, donc un peu quand même le ministre. Résultat, le lendemain, coup de téléphone du ministre qui disait: j'ai pas compris le sens de votre message. Mais le message était très bien passé, il avait été tellement diffusé que le ministre avait été touché directement. La tribune du Monde est devenue 140 signes et un lien vers une vidéo sur Twitter. L'autre exemple que tu nous avais donné, c'est le débat des primaires avec donc le rapport sur la pauvreté, où de façon bien synchronisée, bien anticipée aussi, vous avez maillé l'envoi du rapport, normalement, 48 heures avant, avec l'information envoyée sur Twitter le jour du débat de la primaire de la droite. Ce qui fait qu'au bout du compte, d'abord, ils ont eu des réponses par les réseaux sociaux, par les élus, par les candidats eux-mêmes. Et puis également, le soir, au moment du débat, certains se sont réemparés du sujet. Parce que, interpellés sur les réseaux sociaux, ils n'avaient pas trop le choix, ou alors, au contraire, on leur tendait une perche et une opportunité. Voilà. Donc, voilà. La conclusion de Sandrine, c'était: on arrive à des fins auxquelles on n'arrivait pas avant, et donc, il faut savoir s'en servir. Quelques chiffres: 23 000 fans sur Facebook pour le Secours catholique. Avec quand même la dimension, enfin, militante et engageante. D'aimer une page Facebook du Secours catholique, alors que sur Twitter, vous êtes dans une démarche de transmission de l'information. Et donc là aussi, à prendre en compte, il faut savoir se servir de cette dualité. Bon, le maillage, il peut aller plus loin. On a un peu parlé de la potentialité de d'autres réseaux comme LinkedIn, qui sans doute à l'avenir pourrait être aussi un réseau assez fort, au potentiel assez fort, comme notamment en termes de RH, hein, et de recrutement, et de faire passer l'information sur tous les métiers du Secours catholique, mais également aussi peut-être pour la levée de fonds, ce qui est visiblement assez peu utilisé pour l'instant. Voilà. Oui, bon, et puis on a échangé aussi sur le problème de la vérité. Ce qu'on évoquait aussi ce matin, comment est-ce que... Alors, ils ne font pas du fact-checking, mais ils essayent malgré tout de se servir des réseaux sociaux pour aller au-devant, notamment des élus qui distillent des informations fausses ou pour rétablir une vérité quand elle s'impose ou pour communiquer avec les... Voilà. Tout ça, c'est un community manager... Bon, l'ensemble des équipes des journalistes qui contribuent notamment donc au site web, 4 ou 5 personnes. Donc voilà, c'est quand même une équipe, c'est quand même du boulot. Et c'était aussi la conclusion, c'est que c'est pas 140 signes et c'est rien, vous en faites pas, on n'a qu'à utiliser les réseaux sociaux, ça va marcher. Il y a une stratégie et elle se construit et il y a du monde derrière.
Merci Jean-Baptiste. Alors, juste avant de passer la parole à Capucine, Père Lombardi, il y a une place pour vous qui vous attend. Venez vous asseoir. Et ceux qui sont sur les côtés, n'hésitez pas, il y a encore au moins 4 ou 5 chaises disponibles sur le là-bas. N'ayez pas peur, vous n'allez pas être enfermé et vous serez mieux installé que sur les ventilations. Capucine Bataille, animée l'atelier Diocèse et Mouvement vers une communication de crise avec le témoignage d'Éric de La Bourdonnais. Petit compte-rendu.
Oui, merci. Donc nous avons eu le témoignage d'Éric de La Bourdonnais, qui est DEI du diocèse de Rouen depuis 11 ans. Je pense qu'à l'unanimité dans la salle, on a pu dire que ce témoignage était émouvant. On s'est tous souvenus avec émotion de ce 26 juillet dernier où, en l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, le père Jacques Hamel a été assassiné par deux djihadistes. Et Éric nous a fait entrer dans les coulisses de cette communication de crise que... Il faut le reconnaître, le diocèse a très bien géré. Et à la lumière de ce témoignage, on a essayé de tirer un peu les grandes leçons de cette communication de crise, parce qu'il faut dire que le diocèse n'y était pas du tout préparé et qu'il a eu des bons réflexes qui ont permis que cette com soit bien gérée. Et effectivement, dans la salle, il y a quand même un consensus aussi qui est ressorti sur le fait qu'aucun de nos diocèses et mouvements n'était réellement préparé à une communication de crise. Et si je reprends les mots d'Éric... Même si on ne peut pas prévoir l'imprévisible dans la mesure du possible, il faut essayer de s'y préparer. Déjà, premier point, première anecdote remarquable, Éric a appris les faits de Saint-Étienne-du-Rouvray par un journaliste local. C'est un correspondant local d'RTL qui a pris son téléphone pour appeler le DEI en vacances en lui disant « il se passe un truc bizarre à Saint-Étienne-du-Rouvray ». Et Éric nous a raconté qu'en réalité, ça faisait des années qu'il entretenait de bonnes relations avec le presse local, que lui-même, lors de la mise en examen de certains prêts du diocèse, avait pris le temps d'appeler lui-même les rédacteurs-chefs locaux pour les prévenir de ce qui se passait. Donc avec ce respect du travail des journalistes locaux et cette relation de confiance qu'il avait établie, dans le drame de Saint-Étienne-du-Rouvray, les journalistes locaux sont devenus de vrais alliés. Donc c'était déjà notre première leçon sur la communication de crise, entretenir de bonnes relations avec les journalistes locaux, c'est déjà faire de la prévention. Une deuxième chose remarquable, c'est le communiqué de presse envoyé par le père Dominique Lebrun, qui commençait par ces mots « De Cracovie, j'apprends la tuerie advenue ce matin à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Elle fait 3 victimes, le prêtre, le père Jacques Hamel, 84 ans, et les auteurs de l'assassinat. » Et elle se termine par cette phrase « L'Église catholique ne peut prendre d'autres armes que la prière et la fraternité entre les hommes. » On était tous marqués par le ton plein d'empathie, très humain, et le témoignage de pardon qui, dès les premières lignes du communiqué de presse, donnait le ton de la communication du diocèse. Et effectivement, ce message authentique a donné le ton de toute la semaine de communication. Et la cellule de crise qui s'est montée a décidé de vraiment s'en tenir à cette tonalité. Et c'est ce qui a permis que cette communication se passe de la manière la plus paisible qui était possible. On a aussi noté l'attitude remarquable, il faut le dire, du père Dominique Lebrun, qui a respecté son DU dans cette situation, où lui s'est posé comme porte-parole, mais dès que les médias voulaient l'interviewer, il renvoyait vers Éric de La Bourdonnais en disant « il faut demander l'autorisation à Éric ». Toutes les décisions concernant les médias appartenaient au DEI, et ce qui a permis vraiment que cette cellule de crise soit cohérente. Il y avait un décideur, le DEI, et des porte-paroles, en l'occurrence le père Dominique Lebrun, qui était le plus sollicité, le vicaire général et le père Joly, qui est anglophone. Il y a aussi un point qui n'a pas été vraiment géré par le diocèse, mais qui a joué en leur faveur, c'est la discrétion des sœurs de Saint-Vincent, sœurs de la Charité et du couple Coponnet qui était dans l'église. Ils ont voulu être discrets, ils ont refusé les interviews, mais ce qui a permis aussi au diocèse finalement d'avoir un message cohérent, unifié, qui ne s'est pas éparpillé. Et ça, c'est une des règles de la com de crise de s'en tenir à un message et de le répéter. Et en l'occurrence, après coup, on analysait que la discrétion des autres témoins de l'événement avait permis au diocèse de correctement gérer sa communication. Enfin, le diocèse a su immédiatement faire appel à la conférence des évêques de France qui a dépêché Vincent Fauvel sur place. Pour Éric, ça a été d'un grand soutien puisque son téléphone sonnait toutes les deux minutes, que c'était 150 journalistes à accréditer, 40 télés sur place. Donc, pour un diocèse qui a une équipe très conséquente, puisqu'ils sont un, le soutien de la conférence des évêques de France a été d'un grand secours. Et je finirai en citant ce que disait Éric, ce qui permet quand même aussi, ce qui a permis que cette com de crise soit gérée dans la paix, c'est selon lui que le père Jacques Hamel était déjà aux commandes depuis le début.
Merci Capucine. Dernier atelier, foi et croyance, la montée du spirituel hors église. Virginie Larousse était là pour en parler avec ce petit groupe. Animation confiée à Fanny Chéroux.
Alors oui, la montée du spirituel hors église. Donc on l'a un peu vu comme plan d'attaque, comme des skieurs hors piste, ceux qui ne vont pas choisir de prendre la piste rouge, la piste verte, mais plutôt d'aller à travers les sapins et de prendre peut-être plus de risques, d'être plus seul. Et surtout, qui connaissent bien souvent même les techniques du ski, donc qui finalement, comme des héritiers de la foi catholique, ont eu le bagage, mais ont choisi de ne pas prendre la piste déjà balisée. Donc le constat premier, c'était dans cette société complètement en désamour du religieux ou en indifférence, si ce n'est désamour. On voit émerger de plus en plus ce questionnement et cette recherche spirituelle, ce qu'on appelle en fait les chercheurs spirituels, parce qu'il y a une grande étude qui a été menée en 2015 par l'Université de Strasbourg. Elle a été menée par Jean-François Barbier-Bouvet. Donc on en a beaucoup entendu parler, surtout dans les médias catholiques. C'était la première fois que vraiment on arrivait à cibler qui étaient ces gens et surtout quelles étaient leurs pratiques, quels étaient les motifs de leur recherche et quelle était l'histoire et qu'est-ce qui les avait menés en fait à devenir ces acteurs qui dérangent un petit peu l'Église, parce qu'en fait forcément ils vont chercher ce que l'Église ne propose pas forcément. Donc Virginie Larousse, qui est donc rédactrice en chef du Monde des Religions, qui est un bimestriel qui s'adresse plutôt à un public laïque, a essayé de présenter un peu le profil de ces nouveaux chercheurs. Elle a commencé par montrer qu'on peut être spirituel sans s'intéresser aux religieux. C'est-à-dire qu'en fait, oui, bien sûr, quand on est religieux, quand on est catholique, on est aussi spirituel dans la mesure du possible. Maintenant, l'inverse n'est pas vrai. On peut être spirituel sans s'intéresser aux faits religieux. On a été assez étonnés de voir en fait, la variété des profils de ces nouveaux chercheurs spirituels. dans la présentation que nous a faite Virginie, en fait, il y a beaucoup de clichés. On pense que c'est des gens assez bobos, des gens qui sont beaucoup dans l'affect, etc. En réalité, non, c'est très souvent des personnes qui sont très exigeantes, même sur le plan intellectuel, qui vont toujours appuyer aussi leurs réflexions sur des lectures, qui ont des références sur le plan littéraire, qui ont aussi des références de lieux, qui vont aller dans des monastères, qui vont se ressourcer. Donc en fait, cette expérience se caractérise non seulement par une recherche intellectuelle, mais aussi physique. Et donc il y a les lieux, il y a aussi l'expression du corps par le yoga, le tai chi, etc., mais qui n'est pas juste une expression de performance. C'est plutôt une expression qui relierait le corps à l'âme. Donc voilà. Et alors assez vite... L'Assemblée a réagi et c'était très intéressant. Est-ce que vraiment l'Église a trop négligé le corps? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, enfin, finalement, du côté de Salvatore, on disait, mine de rien, saint Paul est quand même celui qui nous a tout transmis. La foi chrétienne, c'est quand même la foi de l'incarnation. S'il y a bien une foi qui donne le corps au cœur de tout, c'est le corps du Christ. Enfin, à chaque dimanche, c'est quand même ça qu'on entend. Enfin, comment on peut dire qu'ils peuvent pas trouver ça dans la foi chrétienne et pourquoi ils vont chercher ailleurs alors que le corps est là, il est au cœur de tout? Et ben peut-être que finalement, dans le message de saint Paul, il y est, mais est-ce que dans les pratiques de l'Église, est-ce que dans la façon dont l'Église a évolué, elle offre vraiment ce lien entre âme et corps? Voilà. Donc là, il y a eu discussion qui a été plus ou moins affiné, je pense. C'était bien. Comment? Non. Je pense que, enfin, en fait, la dernière intervention a été une personne de l'Arche qui, enfin, pas de l'Arche directement, mais qui travaillait de près avec l'Arche, qui a dit que l'Église, on pouvait la critiquer sur beaucoup de choses, mais à travers l'Arche notamment, elle avait vraiment trouvé une réponse au corps, en fait, quel qu'il soit. Et donc voilà, qu'il fallait pas non plus tout condamner, que l'Église était en pleine réflexion, que aussi elle avait un rapport au corps qui était peut-être un peu au-delà du yoga, quoi. Voilà. Enfin, voilà. sans dénigrer, juste peut-être deux dernières choses qui ont été soulevées par l'Assemblée. Ça a été est-ce qu'il faut voir une concurrence entre ces chercheurs spirituels et l'Église? La réponse a été non, les deux peuvent se nourrir. Par contre, c'est sûr que ces chercheurs spirituels viennent taquiner un peu l'Église, mais à la fois l'Église, et on le voit avec beaucoup de monastères qui accueillent de plus en plus ces chercheurs spirituels au cours de sessions, ils viennent seuls. L'Église a aussi des réponses à apporter et parfois elle peut être sur le chemin de ces chercheurs. Donc elle peut être la réponse. Ils vont peut-être partir à l'autre bout de l'Asie et finalement revenir à l'Église d'à côté. Voilà.
Merci beaucoup, Fanny. Alors, je vais me faire attraper parce qu'on a dépassé un peu les horaires, mais il me semblait important d'avoir cette remontée des ateliers qui ont été nourris. Merci aux rapporteurs. Vous ne bougez pas. Enfin, si, vous pouvez bouger. Mais on se prépare tout de suite à la table ronde suivante sur le thème « Comment parler de l'islam aujourd'hui ?» avec Inès Safi, Michael Privot, Farid Abdelkrim, animé par Anne-Bénédicte Hoffner.